lire le journal, écouter la radio, parcourir des essais, décortiquer des articles académiques, débattre en cours et dehors, c'est ainsi que nos esprits se forment dans cette école. Mais le roman, la fiction, le léger décalage avec le réel qu'il nous offre, permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, de changer notre regard, de ressentir, en plus de comprendre. Tel est l'esprit des 5 livres sélectionnés par le prix littéraire des étudiants et des étudiantes de Sciences Po pour cette 5e édition.
Bonjour chères auditrices et auditeurs, on se retrouve pour notre dernière émission en partenariat avec le prix littéraire de Sciences Po, et j'ai le plaisir de recevoir Christelle Périssé-Nasre. Bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre roman « L'art du dressage », publié en janvier 2023. Dans ce texte, vous renouez avec la forme du conte philosophique ou conte moral pour nous proposer un portrait glaçant de la virilité et de la masculinité toxique. Celle-ci prend la forme d'un trio, un père et ses 2 fils, liés dans un engrenage morbide entre pulsion de mort, cruauté et banalité du mal. On assiste à une véritable descente aux enfers, scandée dans un style qui rappelle le rythme des mitraillettes ou des bombes, armes auxquelles les personnages ne touchent pas, puisqu'ils ne cessent de fantasmer dessus sans vivre la guerre. C'est par là que j'aimerais commencer cet entretien sur votre style. Est-ce que votre manière d'écrire traduit seulement un effet de style recherché, ou est-ce qu'on doit aussi voir un besoin d'écrire et de donner forme à cette violence qui hante vos personnages?
Alors, d'abord merci pour cette lecture, parce que c'est vraiment une magnifique recension. J'avais été prévenue que vous disiez bien les livres, mais effectivement, c'est vrai que le conte moral, c'est exactement ça. J'ai écrit ce texte avec l'idée du conte et morale en plus, parce que pour moi la littérature a une vocation d'édification forte, donc je suis exactement dans cette veine là pour le style. Il y a 2 choses. Il y a le fait que je porte une attention très 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 soutenue au style. Je trouve, je sais pas si c'est très consensuel de le dire, mais que la littérature contemporaine a tendance à écrire simple. Or moi j'ai toujours été très 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 attirée par les grands stylistes et les livres de haute langue, et j'essaie à mon petit niveau de maintenir vivante cette tradition là. Et pour ce texte, le style a été travaillé dans un objectif de concision, avec l'envie d'écrire un texte très court qui se lise un petit peu comme un coup de poing ou qui saisissent à la gorge. Enfin, je cherchais cet effet-là. Donc à la fois dans la force du style, la brutalité de certaines images, et puis dans sa concision et sa densité, parce que c'est un texte qui est très dense. J'ai fait tenir beaucoup de matière dans peu de pages.
Mais c'est quelque chose qui est très réussi, j'avoue que je ne m'attendais pas à me prendre une telle claque. Je pense que c'est le...
Ça a fonctionné.
Ouais. Vous décrivez des personnages qui sont détestables, et pourtant vous prenez le parti d'écrire de leur point de vue. Donc vous dénoncez quelque chose sans poser un regard extérieur sur ce que vous dénoncez. Je me suis demandé si le choix de ce point de vue, c'était une évidence pour vous.
Oui, alors c'est une évidence pour 2 raisons. D'abord parce que j'adore le théâtre et que je n'écris pas de théâtre, mais en revanche, en particulier dans ce texte-là, j'ai beaucoup travaillé le discours indirect libre qui est fondu dans le récit et qui me permet d'installer des moments qui finalement sont très proches des tirades théâtrales, donc avec des personnages qui prennent la parole et parfois de façon précisément théâtrale, un tout petit peu artificielle, et c'est un procédé qui me permet d'avoir un niveau d'ironie un peu élevé. J'aime bien écrire comme ça, et donc en épousant le point de vue des personnages sans émettre de critique morale directe sur leur comportement, c'est le travail de l'ironie qui permet de le faire à ma place.
Est-ce que c'était simple à faire d'écrire de ce point de vue?
Oui, curieusement, j'ai pas éprouvé de difficulté à écrire ce texte. J'ai un tout petit peu peiné à le construire, mais à écrire, non, ça a été assez simple, y compris trouver des voix un peu masculines. Non, ça n'a pas été très 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 compliqué pour moi.
Une chose qui frappe en vous lisant, c'est le comportement de ces deux fils, comportement qui est totalement indexé sur les comportements du père. Et on a le sentiment que ces deux personnages, en fait, ne vivent pas totalement dans notre époque, que leur univers belliciste, très viril, mais aussi raciste et misogyne, est un petit peu dépassé. Et pourtant, ils reproduisent des comportements qu'ils ont vus. Est-ce qu'on doit conclure qu'on sort jamais, en fait, de nos cadres de référence et que cet imaginaire de la virilité qui aujourd'hui est de plus en plus interrogé, est-ce qu'on doit en conclure qu'il va persister finalement?
Je sais pas si on peut tirer des conclusions sur ce point. En tout cas, les personnages de ces deux fils sont tenus en laisse dans une sorte de mission de réparation, si on emploie des termes un peu psychologiques, mission de réparation des fantasmes déçus de leur propre père. L'un va réussir, celui qui condense en lui ce qu'on estime être un parcours de réussite, va à peu près réussir à répondre aux attentes de son père, le second fils non. Le personnage qui est important, on le voit très peu dans le livre, mais qui est important, c'est le personnage de la petite fille, parce que c'est sur elle que ces questions-là se focalisent, parce qu'elle est tiraillée entre deux visions du monde différentes, qui sont celles de son père et celles de sa mère. Et la question qui se pose à propos de cette petite fille, c'est, plus généralement, est-ce qu'il y a un noyau en nous qui échappe à toute injonction, toute éducation ou tout dressage. Enfin, la question de l'éducation et du dressage, évidemment, elle est au cœur du livre. Alors, le livre postule que oui, puisque la petite fille fait un choix et que le choix qu'elle fait est présenté par le texte comme étant le choix du bien, de façon un peu archétypale, mais comme on est dans un conte, il y a un peu de caricature aussi. Dans la vraie vie, tout le monde est un tout petit peu plus subtil que ça, heureusement, mais... Donc c'est une question, moi je pense qu'il y a un espace, même s'il est restreint en nous, qui reste toujours libre de faire un choix, qu'il soit bon ou mauvais.
Est-ce qu'il est possible de penser une société qui parvienne également, à l'échelle sociale pour le coup, de dépasser ces rapports de domination? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous décrivez une forme de virilité, masculinité toxique, mais quand elle n'arrive pas à se projeter dans un univers guerrier morbide, elle se projette dans des dominations au sein du foyer ou à travers le statut social.
Oui, c'est ça, c'est tout. Le plaisir que j'ai eu à écrire ce livre a beaucoup tenu au fait que je décris des personnages de lâches. Donc en fait, le texte oscille toujours entre une volonté, qui est réelle d'ailleurs à certains moments, de domination et de violence, avec un manque d'empathie très très clair, et en même temps des personnages qui sont affreusement lâches qui n'actualisent pas dans leur existence leur fantasme de virilité. En fait, j'ai travaillé avec je les ai installés, ces personnages, dans une sorte de virilité sans virtus au sens latin, c'est-à-dire il n'y a pas de sens de l'honneur, il n'y a aucun courage. C'est le degré zéro du mal. Du mal, M-A-L, et aussi M-A-L-E. C'est-à-dire que j'avais quand même l'idée que, en sous-texte, le lecteur puisse se dire « être un homme, c'est pas ça ». Moi, je pense qu'il peut y avoir une virilité, y compris une virilité guerrière, protectrice. Enfin, c'est des représentations très classiques, mais qui peuvent exister, à mon avis, sans être toxiques. Je pense que c'est possible.
Vous faisiez référence à la lâcheté. C'est quelque chose qui m'a interpellée et beaucoup intéressée dans votre ouvrage, et ça m'a rappelé l'œuvre de Romain Gary, qui a un sérieux problème avec la masculinité également, et dont la majorité des personnages sont assez lâches, sauf que chez lui, ça revêt un caractère un petit peu touchant, alors que chez vous, au contraire, c'est ce qui rend vos personnages encore plus monstrueux, je dirais. Donc, quel regard vous portez, en fait, sur cette notion de lâcheté?
La lâcheté, je pense qu'il faut... Là, dans le texte, elle est circonscrite pardon, à ce trio, mais plus généralement, je pense que... c'est important de se demander à quel moment dans ma vie j'ai eu du courage. Moi, c'est une question que je me suis déjà posée. J'ai pas trouvé beaucoup de réponses. Et ce qui était intéressant avec ces personnages, et ça c'est la petite phrase que j'ai choisie pour l'exergue de Jean Guéhenno, la guerre c'est la mort des autres, c'était questionner ça, c'était un rapport abstrait à l'existence, avec ces hommes qui fantasment la guerre, qui en rêvent, mais qui sont incapables de la faire. Et pour différentes raisons, et finalement pour eux la guerre ne va jamais les concerner, aucun des trois ne sera réellement à un moment sur un champ de bataille à affronter le regard d'un ennemi et éventuellement sa propre mort. Mais je trouve que plus généralement, alors là il faut un peu ouvrir le texte pour ça, mais plus généralement on vit aujourd'hui en France, en Occident en général, dans des vies qui restent un peu abstraites par rapport à... Alors, elles le sont plus ou moins en fonction des milieux et des histoires de vie, mais on ne sait plus ou rarement ce que c'est qu'avoir faim, avoir froid, avoir vraiment peur, risquer sa vie, c'est-à-dire avoir un rapport concret aux exigences vitales. Donc, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la lâcheté, mais moi, je parlerais plutôt de rapport abstrait à l'existence, et que c'est vrai qu'on a intérêt à se poser cette question-là de temps en temps. Parce que c'est la question de l'engagement ouais. qui arrive derrière.
Et comment on arrive justement à reprendre un rapport concret à l'existence ? Est-ce que la littérature permet ça ? Ou est-ce que ça doit passer par des voies matérielles ?
Je pense que ça passe par des voies matérielles. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine que la littérature agisse. C'est triste, hein. Je le dis ça vraiment. ce serait formidable, hein. Si elle, ouais. Alors peut-être qu'elle allume des étincelles et puis que elle donne du sens, je pense, à certains d'entre nous. Elle, parfois, elle est vitale aussi pour des individus. Ça peut être un outil de mise en sens, un outil pour traverser des deuils. Enfin, bon. Mais pour agir sur le monde, je suis pas certaine. Je crois plus à l'engagement politique, à un rapport plus guerrier à l'existence, mais pas forcément guerrier sur un champ de bataille. Oui.
Une autre question que je me suis posée, mais c'est peut-être une impression, j'ai le sentiment que ce sont majoritairement des femmes qui ont écrit sur la virilité. Est-ce que ça veut dire que les hommes n'arrivent pas encore à s'emparer de ce sujet?
Alors ça, je me suis jamais posé la question si les femmes avaient plus écrit. Elles s'expriment en tout cas en ce moment, ça c'est certain. La virilité, c'est très... Moi, ce qui m'intéressait dans ce texte-là, c'est que j'ai bien distingué dans ma tête en écrivant ce qui relevait du masculin. Je me suis dit, le masculin, c'est on est vraiment en miroir avec le féminin, on peut être dans des jeux antagonistes forts, alors que la virilité, c'est quelque chose qui se joue entre les hommes. C'est les hommes entre eux.
Ouais.
Hein. Un homme va mesurer sa masculinité à la féminité d'une femme, alors que la virilité, elle se... S'il y a mesure, c'est les hommes entre eux. Donc il y a aussi ces jeux de virilité dans le trio entre le père et ses deux fils. Virilité qui se joue à tout un tas de niveaux, la capacité à faire une école militaire, ou à entrer dans l'armée, ou à réussir socialement... ou à dominer sa femme, enfin il y a plein de voies entre eux, dans ce qui est la virilité pour eux, parce qu'il peut y avoir évidemment plusieurs regards sur la virilité. Les hommes, je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a moins d'hommes qui écrivent qu'avant, je sais pas si je rêve ou si je suis plus attentive au texte de femmes. Ouais, mais ce serait intéressant de voir un homme qui se saisirait de cette question-là, ouais.
Ouais. Et j'ai l'impression que c'est une question qui est encore très ancrée dans nos quotidiens, et pourtant on entend de plus en plus de discours qui viennent dire que finalement la virilité, voilà, c'est un concept dépassé, et pourtant ça reste très ancré, ne serait-ce que dans les rapports de force sociaux.
Oui, je pense que je vais avoir du mal à répondre à cette question assez rapidement. Moi, je travaille beaucoup en prison, j'anime des ateliers d'écriture en prison, et je peux vous assurer que là, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut voir par ailleurs. Il y a des forces, des forces culturelles qui sont extrêmement, extrêmement puissantes à l'œuvre. Je pense qu'on reconstruit pas des rapports comme ça en une ou deux ou trois générations. le monde social est, c'est la plus grande c'est la plus grande force qui s'exerce sur les individus, celle-ci. Donc, les rapports hommes-femmes, ça va durer, je crois.
Ouais. Mais on aimerait que ça change le plus vite possible. Ouais. Pourtant, est-ce que vous pensez, vous disiez en commençant que vous pensez à la force des textes pour changer le monde, est-ce que vous pensez que, déjà, vous adressez votre texte à qui ? Est-ce que vous pensez que pour les générations futures, ça peut les inspirer, les faire se remettre en question ?
Je crois que j'ai pas tant cherché un texte qui remette en question, même si je pense qu'on peut se poser des questions à partir de ce texte-là. Mais en fait, je suis maman de deux garçons qui seraient en âge d'être mobilisés, si jamais il y avait une mobilisation. Bon, on entend un peu parler de ce genre de fantaisie en ce moment. Et c'est vrai que, à propos du personnage du père, Marceau, je me suis demandé en écrivant le texte s'il n'était pas un peu caricatural, si réellement on pouvait croiser dans la vraie vie des messieurs harcelés intérieurement par ce qu'ils vivaient comme un échec par rapport à la guerre. Et j'ai eu des retours de lecteurs qui m'ont dit « Mais c'est incroyable, c'est l'histoire de mon père. Mon père a pas pu faire l'Algérie, il était trop jeune, trop vieux, trop gros, je ne sais quoi. » Et il est devenu réserviste pour se sentir mieux dans sa peau. Donc ces messieurs existent. Mais je crois que la jeune génération d'aujourd'hui imagine, et c'est ce que je dis dans le texte, que la guerre est finie. Ou alors qu'elle est extrêmement lointaine, elle est devenue très très abstraite. Or, on imagine bien qu'il faut quelques... Alors je ne sais pas si on peut appeler ça des qualités, je pense que oui, en tout cas des particularités à travailler pour être capable de s'élancer sur un champ de bataille. Et les hommes aujourd'hui, alors moi je m'en félicite en tout cas pour mes fils, hein, ne sont plus tenus de cultiver en eux cette capacité guerrière. Mais le monde peut se retourner vite, hein, les choses peuvent se retourner comme un gant très rapidement, et donc moi ce texte m'a envoyé sur ces questions-là, de la réalité de la guerre qui possiblement se rapproche, et là c'est les jeunes hommes qui vont être, sans doute plus que les jeunes femmes, qui seraient éventuellement concernées. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on est un homme et que on a mis, parce que quand même beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui très ouverts, et qu'on a mis presque un point d'honneur moral à se libérer d'un certain nombre de contraintes qui pesaient sur les hommes aux générations précédentes. Voilà, c'est cette question-là un petit peu qui a habité le texte. Alors j'ai pas de réponse, hein, mais...
C'est intéressant, mais ça donne... Enfin, j'ai aussi l'impression que la guerre a changé un petit peu de statut. C'est-à-dire qu'elle incarne, en fait, l'imaginaire viril et ce vers quoi vos personnages tendent, à part pour le père, ça s'incarne plus dans la guerre, mais dans...
Non, ça s'incarne... Non, c'est plus incarné dans la guerre, donc ça s'incarne dans une guerre domestique,
une guerre sociale,
hein. une guerre professionnelle, une guerre entre frères, ouais. Et puis après, voilà, tous les petits combats privés qu'on peut mener contre les siens quand la porte est fermée. Mais malgré tout, c'est frappant de voir, quand on regarde les chiffres de vente des jeux vidéo guerriers, il y a quelque chose quand même qui est encore extrêmement ancré, alors que c'est de l'ordre du divertissement, mais alors est-ce que ce qui s'exprime là, c'est vraiment du culturel qui est profondément incarné, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de l'homme ? C'est des questions de toute façon qui traversent la société en ce moment, et les hommes eux-mêmes, mais c'est vrai que ce serait intéressant de les entendre sur ces questions-là.
Et ça renvoie aussi à la notion de catharsis, c'est-à-dire que dans l'art, on cherche des formes de violence, on cherche à extérioriser une violence qu'on a en nous, et que, enfin, je pense que personne n'aimerait l'expérimenter sur un champ de bataille.
Bien sûr, mais évidemment. Évidemment. D'ailleurs, j'ai un peu travaillé la violence dans le texte. Il y a un certain nombre de lecteurs qui ont pris plaisir à avoir un texte un peu rude, et puis d'autres qui ont été des lectrices, surtout, qui ont été un peu surprises, qui ont trouvé que le texte était trop rude, trop... Mais voilà, j'ai essayé de mettre en adéquation le style, la force du texte, et puis son sujet.
Mais il fait écho justement à la violence du sujet, donc c'est totalement à propos. Notre entretien touche déjà à sa fin. Merci Christelle Périssé. Je rappelle la référence de votre ouvrage. Il s'intitule « L'art du dressage », paru en janvier 2023 aux éditions du Sonneur. Merci à Arthur qui était à la technique pour cette émission. Et merci au prix littéraire de Sciences Po pour cette collaboration. Prenez soin de vous et à bientôt sur les ondes.
Radio. Radio. Radio Germaine.